France Inter.
Bonsoir à tous. Le monde suspendu à la réponse de Tel Aviv après l'attaque sans précédent de l'Iran ce week-end. La riposte semble l'option privilégiée. L'armée israélienne est en tout cas sur le qui-vive, nous dira Thibault Lefèvre dans un instant. On ira aussi aux États-Unis après la première journée du procès pénal historique de Donald Trump à New York. L'ancien président américain qui dit avoir un vrai problème avec le juge. La communauté internationale au chevet du Soudan à Paris, 2 milliards d'euros d'aide humanitaire débloqué pour le pays, déchiré par un an de guerre. En France, les témoignages se multiplient sur les agressions sexuelles à l'hôpital. Et puis Emmanuel Macron l'assure, les Jeux de Paris 2024 seront rentables.
France Inter.
Ça ressemble au calme avant la tempête. Israël n'a toujours pas officiellement annoncé sa position après l'attaque iranienne sans précédent de ce week-end. Mais le cabinet de guerre israélien s'est réuni deux fois en deux jours. L'heure semble au préparatif d'une riposte. Et Thibault Lefèvre, la tension monte d'un cran à chaque déclaration.
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, promet des représailles. Quelques heures avant, le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdollahian, avait assuré que la réplique de Téhéran pourrait être immédiate et plus forte. Voilà pour les mots. Dans les faits, les Israéliens cherchent encore le bon dosage. D'un côté, il ne faut pas laisser l'attaque historique de ce week-end sans réponse. Et de l'autre, ne pas se mettre à dos l'allié américain qui exhorte l'État hébreu à ne pas se précipiter pour éviter un embrasement régional. Selon la chaîne 12, l'armée de l'air israélienne est sur le qui-vive et plusieurs options sont sur la table. L'envoi de missiles sur le territoire iranien, une cyberattaque ou une frappe sur une des forces mandataires de Téhéran comme le Hezbollah au Liban. Et puis, autre front, mais toujours la même volonté de passer à l'offensive, Gaza et la préparation de la bataille de Rafah au sud de l'enclave. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, travaillait tout à l'heure sur les plans d'évacuation de la zone.
Thibault Lefèvre, envoyé spécial permanent de France Inter à Jérusalem. L'attaque iranienne qui fait suite à la frappe du 1er avril dernier sur le consulat d'Iran à Damas en Syrie. Israël n'a jamais reconnu être derrière cette frappe, mais les victimes étaient des terroristes agissant contre Israël, affirme ce soir le porte-parole de l'armée israélienne. Et puis on parlait de Gaza, des militants pro-palestiniens bloquent ce soir le Golden Bridge, l'emblématique pont de San Francisco aux États-Unis, pour appeler au cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Washington qui appelle aussi ce soir à l'arrêt des violences en Cisjordanie occupée après le meurtre d'un jeune colon de 14 ans. Plusieurs villages palestiniens ont été attaqués ce week-end. Il y a 8 morts côté palestinien selon le dernier bilan donné par les autorités palestiniennes. Aux États-Unis, Donald Trump est devenu cet après-midi le premier ancien président à comparaître devant la justice pénale. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno. C'est le paiement qui pose problème. Des documents comptables qui auraient été falsifiés. Mais avec lui, la meilleure défense, c'est l'attaque, surtout en période de campagne présidentielle. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Correspondant aux États-Unis de France Inter, le milliardaire républicain qui est droit dans ses bottes du début à la fin de cette première journée.
Oui, il vient de prendre la parole à la fin de cette journée première, journée d'audience, qui n'est pas une journée d'audience, puisqu'il s'agit de choisir les jurés de ce procès. Mais il a pris la parole, effectivement, à la fin de cette première journée, au bout du couloir, brièvement, à l'intérieur du tribunal, où se trouvent les rares journalistes autorisés à entrer, à peine 2 minutes pour dénoncer de nouveau, cette fois en utilisant l'expression qu'il n'a pas utilisée ce matin, pour dénoncer ce qu'il a appelé cette chasse aux sorcières. C'est son expression préférée pour dire, redire tout le mal qu'il pense du juge qui préside son procès, le juge Juan Merchan, qui lui impose de ne pas commenter le procès lors de ses interventions publiques, en tout cas pas en attaquant les personnes, le juge lui-même, les procureurs, leurs familles. Or, il vient de redire, Donald Trump, qu'il avait un vrai problème avec lui, ce juge qui lui impose d'être présent tous les jours, sauf parfois le mercredi et les week-ends, ici au tribunal, pendant un mois et demi à deux mois. Voilà donc quel sera le sort de l'ancien président candidat à une réélection qui ne pourra pas ou qui pourra moins faire campagne. Plus de la moitié, ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que plus de la moitié des 96 jurés potentiels qui ont été interrogés aujourd'hui se sont exclus d'eux-mêmes du procès parce qu'ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas être justes ou impartiaux. Et vous savez qu'ils doivent l'être pour pouvoir faire partie des 12 jurés, des 6 suppléants dont le tribunal a besoin pour commencer ce procès historique, le premier procès pénal d'un ancien président des États-Unis qui commencera donc demain matin ici à Manhattan.
Merci beaucoup Sébastien Paour en direct de New York pour France Inter. Au chapitre judiciaire encore aux États-Unis, 18 mois de prison ferme pour l'armurière de Rust. C'est sur le tournage de ce western en 2021 qu'une directrice de la photographie avait été tuée par balle accidentellement également par l'acteur Alec Baldwin. L'armurière avait chargé le revolver. Durant le procès, l'accusation avait fustigé son amateurisme et la procureure son absence de remords. L'acteur, lui, producteur également du film, sera jugé en juillet pour homicide involontaire. Une année de guerre, une population exsangue et un pays dévasté, le Soudan, était au cœur d'une conférence internationale aujourd'hui à Paris. Et Gwendal Lavina, la somme réunie, a été communiquée en fin de journée par Emmanuel Macron, plus de 2 milliards d'euros d'aide humanitaire.
À la clôture de l'événement, le président Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé la souffrance du peuple soudanais, celui qui a fui et celui qui reste pris en tenaille entre l'armée régulière du général Al-Burhan et les forces paramilitaires du général Hamdan Daglo d'Yemeti. Au début de la journée, seuls 5% du financement nécessaire pour aider les Soudanais et les pays voisins était assuré, selon l'ONU. Une profonde satisfaction s'exprime donc à l'annonce par Emmanuel Macron des fonds promis par les participants.
Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous. Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
La France, elle, participera à hauteur de 110 millions d'euros pour une aide réclamée de longue date par les organisations toujours actives sur le terrain. Clémentine Quetta, représentante spéciale adjointe de l'ONU pour le Soudan.
Les fonds que vous vous engagez à débloquer nous aideront à sauver des vies, nourrir les enfants sur le point de mourir, fournir des médicaments aux hôpitaux et soutenir les familles déplacées tant que la guerre fera rage.
Et une déclaration commune adoptée à l'issue des discussions appelle aussi tous les acteurs régionaux et internationaux à soutenir sans réserve une initiative de paix.
2 milliards d'euros, il en faudrait deux fois plus selon l'ONU pour le Soudan qui estime que le pays fait face à la plus grave crise humanitaire au monde. Le secrétaire général des Nations Unies évoque aussi de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En France, le MeToo à l'hôpital prend de l'ampleur depuis les accusations contre l'urgentiste Patrick Peloux. Et même si lui se dit sidéré et nie les faits présumés, les langues se délient. On lit et on entend de plus en plus de témoignages comme celui de cette généraliste ex-hospitalière recueillie par Faustine Calmel.
Zoé est aujourd'hui médecin généraliste dans l'ouest de la France. Son choix d'exercer en libéral hors de l'hôpital a été renforcé par son internat dans un CHU et les remarques et agressions sexuelles qu'elle y a subies dès ses stages. Voici un exemple parmi d'autres.
Une des choses qui m'a beaucoup marquée, ça a été pendant une garde. J'étais très dépendante de mon interne. Et en fait, il s'est engouffré derrière moi, il a fermé la porte, il a commencé à baisser son pantalon. Ça faisait depuis déjà des heures et des heures et des heures qu'il me harcelait sexuellement, qu'il me dénudait contre mon gré. Donc j'ai eu très peur qu'il me viole, en fait.
En criant, elle le fait reculer, un cas loin d'être isolé. Selon le baromètre de l'association Donner des ailes à la santé, près de 8 femmes médecins sur 10 ont été victimes de comportements sexistes. 30% évoquent attouchement ou agression sexuelle, trop rarement sanctionnée, regrette la professeure Coraline Ingré, psychiatre, vice-présidente de l'association.
On a dans moins de 18% des sanctions qui ont été prises à l'encontre des auteurs. Et donc, il est très difficile d'encourager la libération de la parole des victimes tant qu'il n'y a pas très clairement des messages forts sur l'absence d'immunité.
Les changements de comportement sont à l'œuvre. Pourtant, estiment les deux médecins qui espèrent que ce MeToo hôpital pourra enfin accélérer le mouvement.
Faustine Calmel, l'hôpital qui traverse une autre crise, celle du manque de personnel soignant à Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Les accouchements sont suspendus jusqu'à fin octobre. L'Agence régionale de santé prolonge donc la mesure faute de soignants. L'ARS annonce aussi une mission d'expertise médicale sur l'avenir du service menacé de fermeture. Plus d'un millier de personnes avaient manifesté hier dans la ville pour défendre le système de soins. Manifestation aussi ce soir à Paris sur un tout autre sujet. Des travailleurs du commerce et des services qui s'inquiètent d'une régression sociale dans leur secteur avec les Jeux Olympiques. La CGT qui revendique 1500 manifestants réclame une table ronde en urgence sur ce sujet. Il y a aussi les critiques sur le coût de ces Jeux, critique balayée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Fabien Cazot, le chef de l'État, promet des Jeux rentables, chiffre à l'appui.
Eh bien, la somme correspond au total des investissements réalisés par les entreprises dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Cette somme s'ajoute aux 2 milliards déjà investis par l'État, sans prendre en compte les retombées qui découleront des Jeux ensuite, en termes de consommation, de transport ou d'activité hôtelière notamment. À ce stade, les 6 milliards évoqués par Emmanuel Macron incluent le montant des investissements réalisés réalisés sur les chantiers, le village des athlètes ou la restauration du Grand Palais à Paris, pour citer les plus emblématiques, mais aussi les emplois dans le secteur privé, des salaires, mais aussi de l'impôt et des cotisations sociales qui vont rentrer dans les caisses de l'État, se réjouit-on à l'Élysée, où on estime à 2000 le nombre d'entreprises mobilisées sur les JO, originaires de 85 départements français. 1900 contrats d'insertion sur des chantiers ont été signés dans le seul département de Seine-Saint-Denis. Au total, 180 000 personnes ont pour l'instant, directement ou indirectement, participé à la préparation des JO.
Fabien Cazot du service économie d'Inter, les Jeux Olympiques qui commencent à être très concrets. Demain à 10h30, ce sera l'allumage de la flamme à Olympie en Grèce avec Laure Manoudou, première relayeuse tricolore. On sera à 101 jours de la cérémonie d'ouverture. Et puis il y a les Jeux paralympiques après les JO. Et cette année, on verra bien l'équipe de France masculine de basket fauteuil. Cela n'était plus arrivé depuis 20 ans. Les Bleus se sont qualifiés ce soir en battant le Maroc 87 à 60 à Antibes.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
La météo, Sébastien Léas.
La perturbation pluvieuse et venteuse arrivée aujourd'hui par la Manche continue de s'infiltrer sur le pays, gagnant le sud et l'est de l'Hexagone. Demain matin, elle donnera encore un peu de pluie entre les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord, avec une limite plus neige vers 1000 mètres sur le centre-est. À l'arrière de cette perturbation, c'est un ciel de traîne qui se met en place. Des éclaircies arriveront à se dessiner demain, mais les averses seront régulières sur un large quart nord-est. Les averses seront plus localisées dans les plaines du sud-ouest et entre la Normandie, la Touraine et l'Auvergne. Et le temps sera globalement sec et lumineux de la Bretagne au Poitou-Charentes. Le soleil sera encore bien généreux autour de la Méditerranée, mais le vent soufflera fort avec même de violentes rafales autour de la Corse. La baisse des températures va se poursuivre et se généraliser. Les maximales de demain après-midi atteindront à peine 10 à 16 degrés sur la majeure partie du pays, avec 16 à 23 degrés sur les régions méditerranéennes.